Merci d'être revenu, ou d'être venu pour certains, de nous rejoindre pour cette deuxième et dernière rencontre sur le thème de l'argent, donnée par Frédéric Travier. Donc, juste pour rappeler, Frédéric Travier vient du sud de la France, du Gard. Ça me dit quelque chose. Frédéric Travier était déjà venu dans l'église, la dernière fois il y a 2 ans. Et voilà, on se réjouit qu'il soit parmi nous. Je vais lui laisser faire un petit rappel de cet après-midi. Ce sera plus pertinent que si je le fais moi. Mais je vous invite peut-être à remettre ce moment dans la prière. Oui, Seigneur Jésus, merci pour cette possibilité que nous avons de nous retrouver devant toi. C'est vrai, nous te remettons cette soirée, que tu la bénisses, que tu nous aides aussi à faire un autre ce thème de l'argent. Tu vois que ce n'est pas forcément un thème facile à aborder. Eh bien, nous te remettons cette soirée afin que tu la bénisses, que tu bénisses tout particulièrement Frédéric, et que ce soit un temps utile pour l'Église, pour chacun de nous ici. Amen. Voilà.
Voilà. Quand Dieu parle argent, parce que Dieu parle argent aussi. Alors effectivement, cet après-midi, nous avons développé le thème de la puissance qui régit l'argent et que Jésus nomme par un mot, un dieu, une divinité, qui est Mammon. Mammon qui signifie richesse en fait. Donc ce n'est pas l'argent en tant que papier, billet ou enfin, pièce de monnaie en tant que tel, mais c'est tout ce qui est autour de l'argent et qui se rapporte de près ou de loin. Et j'ai précisé, on a développé un petit peu, mais je ne vais pas rentrer dans trop de détails, que Mammon était d'abord une puissance diabolique avant d'être simplement un billet de banque que l'on utilise bien ou mal. Parce que, en fait, le but de Satan, c'est d'utiliser cette puissance, en fait, qu'est le matérialisme, l'argent, le conformisme, etc., pour pousser les personnes, en fait, à sentir ou à se prouver qu'elles n'ont pas besoin d'autre chose que Mammon, c'est-à-dire tout ce qui est autour de l'argent, pour vivre tout simplement. Donc, on ne va pas rechercher Dieu. Et c'est peut-être aussi pour ça que Jésus met en garde, c'est le verset sur lequel on s'est arrêté cet après-midi, « Nul ne peut servir deux maîtres, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Donc du moment que Satan réussit à se faire servir et adorer, même sans qu'on s'en rende compte, à travers Mammon, eh bien ça enlève la recherche quelque part, que finalement Dieu peut nous apporter autre chose, puisque a priori, l'argent et tout, et la richesse, etc., peut nous suffire. Mais en fait, on se rend compte, et les personnes qui se tournent vers Christ, particulièrement les personnes qui se sont fait piéger par l'argent, eh bien, témoignent en disant « Mais oui, je faisais fausse route, oui, il me manquait quelque chose, oui, je n'étais pas épanoui, oui, ça ne m'apportait pas le bonheur, on a beau le dire, l'argent fait le bonheur, mais non, au fond de moi, j'avais bien quelque chose qui me manquait. » Donc, heureusement, Dieu est tout puissant, Dieu est plus puissant. Si Satan est prince de ce monde, Jésus en est le roi. Et il peut transformer les vies, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc je ne vais pas en rajouter plus, parce qu'on a pas mal dit de choses, mais on a un petit peu tourné autour de cela. C'est pourquoi le second point qui me paraît important de rappeler, de souligner, on va le développer maintenant, c'est l'attitude qui s'oppose à Mammon. C'est celle qui est de donner la priorité à Dieu. Et c'est une évidence, bien sûr, le dire là, dans une église, parmi peut-être la plupart d'enfants de Dieu, mais il y a des fois dans la vie où peut-être que Dieu n'est pas forcément à la première place, Et peut-être dans le domaine de l'argent, c'est le cas. On a essayé de voir en tout cas cet après-midi si ça pouvait l'être. Je prends toujours et j'aime beaucoup cette image de la voiture en nous posant la question, Dieu, où est-il? Quelle place a-t-il dans ma voiture? A-t-il la place de la roue de secours? C'est une place intéressante, oui, parce que finalement, quand on a besoin d'une roue et qu'on vient de crever l'autre, on prend la roue de secours et on se dépanne. Très bien. Est-ce que Dieu est là pour nous dépanner? Et une fois qu'on a été dépanné, qu'on a pétassé la roue, eh bien, on remet la roue de secours dans la voiture et puis, parfois, on continue sa vie, bon gré, mal gré. Voilà. À tombeau ouvert, si j'ose dire. Ou bien Jésus est-il assis à la place du passager? Je contrôle la situation, enfin j'ai l'impression, je crois, je veux contrôler la situation, mais je suis rassuré parce que je le vois, il est près de moi, et c'est un petit peu une relation que je peux avoir, qui peut être un peu ambiguë, mais qui est là, il est là, je l'entends, je ne l'écoute pas forcément, mais je l'entends, c'est rassurant. Il me dit d'aller à droite, si j'ai pas envie d'aller à droite, je vais à gauche, j'ai le volant, je gère. C'est pas une voiture d'auto-école, il n'y a pas les pédales pour freiner, ni pour accélérer, c'est moi qui suis maître, et je veux rester maître. Mais j'aime bien qu'il soit à côté de moi, pas trop loin. Donc j'aime bien de temps en temps peut-être aller à l'église ou peut-être donner un peu d'argent à telle société, association, à l'église. Ça, c'est rassurant. Dieu est là. Bien évidemment, la meilleure place de Jésus, c'est celle du conducteur, on l'a compris. Celle du conducteur et nous, passagers, où effectivement, il prend tout en main. Et si nous avons envie d'aller à droite et que nous lui suggérons d'aller à droite, eh bien, ma foi, s'il va à gauche, il ne nous explique pas ou il nous explique, qu'importe, on part à gauche. On n'a pas le choix. C'est ça la vie de foi, c'est dire à Dieu, je te donne le quitus, chèque en blanc signé, et je te laisse diriger ma vie. Il m'arrive des malheurs, il m'arrive pas des malheurs, j'ai ceci ou j'ai pas ceci ou j'ai pas cela dans le domaine de l'argent et du matérialisme. C'est pas grave, Seigneur, toi tu sais pourquoi et tu sais ce qui est le meilleur pour moi. Voilà le Dieu d'abord, pour moi. Pas facile, hein? Je dis pas que. Même moi, je me surprends à vouloir mettre Jésus à côté. Parce qu'il y a des fois où j'ai l'impression que si je gère, ça ira plus vite. Mais bon, bien sûr, vous avez compris, je me rends compte que ce n'était même pas la peine d'y penser, mais non, ça ne va pas plus vite. Et on va dans le mur. Donc Dieu d'abord. Et nous allons voir ce soir comment l'Écriture nous encourage à le faire d'une part et y persévérer d'autre part. Oui, la Bible parle d'argent, avec une grande liberté, une grande clarté, une grande sérénité, un grand équilibre. Il n'y a aucune langue de bois par rapport à ce sujet, on l'a un petit peu vu déjà cet après-midi. Alors il y a des mises en garde, et relisez l'Ecclésiaste, relisez les Proverbes en particulier, j'en citerai, des mises en garde, elles sont importantes. Oui, la parole nous signale les dangers, le piège de Mammon, de Satan qui se cache derrière l'argent. Je disais cet après-midi que si on disait est-ce que tu préfères servir Dieu ou Satan, forcément on risquerait d'aller plutôt vers Dieu. Mais si on dit est-ce que tu veux servir Dieu et Mammon, mais Mammon, c'est qui Mammon? Ah, Mammon, ah, mais c'est le matérialisme, c'est la richesse, etc. Ah ouais, j'aime bien moi, la richesse, etc. Donc vous voyez le piège, hein? Satan nous fait peur peut-être, le mot même peut nous surprendre et nous apeurer, alors que ma foi, richesse, matérialisme, etc., c'est plus anodin. Mais Satan se cache derrière, hein? Et comme un lion rugissant, hop, il dévore celui qui s'éloigne de Dieu. Alors, à peine le peuple hébreu est entré en Canaan, Dieu parle d'argent. Et c'est à travers le principe de la dîme que l'Israélite va d'une part savoir quoi faire de ses biens qu'il a vis-à-vis de Dieu, et d'autre part lui manifester sa confiance et son obéissance. C'est à travers ce principe-là que l'Israélite va faire cela, montrer à Dieu quelque chose. Dépendance, confiance, etc. Là, nous sommes donc dans l'ancienne alliance, basée sur les 10 commandements et leurs corollaires. Et les corollaires font partie aussi et montrent comment traiter de ces biens. L'historien Flavius Joseph, qui est un historien très, très, très ancien, bien sûr, pense que l'Israélite pouvait apporter jusqu'à 3 fois la dîme avec tout ce qu'il avait la possibilité de faire vis-à-vis de Dieu. Par exemple, celui qui était scrupuleux de la loi donnait la dîme, ça c'est une première chose, ou les dîmes de tous ses produits. Alors, pour ceux qui, peut-être le terme de dîme, c'est 10%. Donc, je précise, 100 euros, ça fait 10 euros. Hein, bon, je vais être clair, hein. Voilà, ne me trompe pas, hein, c'est bien ça. Hein. Donc, personne n'en était dispensé. Elle était aussi imposée aux plus pauvres ainsi qu'aux lévites, c'est-à-dire à ceux qui recevaient, qui vivaient, qui étaient en charge du temple, qui vivaient de ce qu'on leur apportait eux-mêmes, devaient aussi donner à leur tour, particulièrement aux sacrificateurs. Effectivement, c'est un pourcentage, donc quoi que ce soit les revenus, c'est toujours le même pourcentage. Mais ils devaient aussi sacrifier un bétail lors de fêtes célébrées à Jérusalem. Ça se rajoutait. Ils offraient un agneau après chaque naissance, selon l'état matériel de la famille. Ça pouvait être beaucoup moins, un pigeon, une tourterelle, etc. Mais c'était quand même proportionnel. Donc ça se rajoutait. On voit Joseph et Marie, par exemple, qui viennent au temple lorsqu'ils consacrent Jésus avec un pigeon, un oiseau, un sacrifice à l'Éternel pour la naissance de l'enfant Jésus. Il y avait aussi offrir obligatoirement un sacrifice quand on avait un contact ou un contact avec un cadavre. Ça faisait partie d'une offrande qu'il fallait apporter à Dieu, légale, obligatoire. Lorsque un homme avait une pollution nocturne ou une femme ses règles ou une perte de sang, il fallait apporter quelque chose au temple, en tout cas à Dieu, à travers la sacrificature. Il fallait réserver un coin de champ lorsqu'on en avait, et beaucoup en avaient, non moissonné pour l'étranger ou le pauvre. Ça faisait partie aussi d'un don que l'on faisait, une offrande. Il fallait attendre 5 années avant de s'approprier les fruits de ces arbres que l'on avait plantés récemment. C'était une façon aussi de donner à Dieu et d'attendre que les fruits viennent pour soi. On pouvait aussi ajouter aux offrandes divers dons ou secours volontaires afin de venir en aide à l'orphelin, à la veuve, aux lépreux, à l'étranger, qui étaient des offrandes spontanées et que certains, et même la plupart, faisaient aussi. Donc tout cela coûtait fort cher et pouvait représenter en réalité, je l'ai dit, 2 à 3 fois même le principe de la dîme du revenu basique, si je puis dire, de base, oui. Aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle n'est plus basée sur la loi, même si la loi n'est pas proscrite, mais elle est basée sur la grâce. Grâce en Jésus-Christ, le don de Christ, la croix. Qu'en est-il donc de l'argent dans la nouvelle alliance du peuple de Dieu, qui n'est plus l'Israélite, mais qui comprend l'Israélite né de nouveau, le Juif converti, judéo-chrétien, le juif converti, messianique, et les païens que nous sommes, qui ne sont pas du peuple de Dieu, juifs. Donc quand je parle du peuple de Dieu, je parle de tous les rachetés dans le monde, des hommes et des femmes, de toute race, comme dit Paul, de toute tribu, de tout pays, qui ont accepté Jésus comme sauveur et seigneur. Le Nouveau Testament, et en particulier les écrits de l'apôtre Paul, nous éclairent. La nouvelle alliance démontre en fait la loi de l'esprit qui se manifeste non plus uniquement à travers le principe de la dîme, qui était une loi, une obligation qu'on devait appliquer, bon gré, mal gré, mais à travers celui de la libéralité. Et en fait, le principe de la libéralité rend l'enfant de Dieu intendant de tous ses biens et donc plus responsable encore de la manière dont il gère ses biens que dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Eh bien parce que l'acte de générosité se manifeste d'abord par un acte volontaire, ce qui est différent de l'ancienne alliance, qui était un acte obligatoire. Nous passons dans un acte volontaire qui manifeste une forme d'adoration envers Dieu. Tout autant de confiance et de dépendance que l'Israélite au temps de la dîme, certes, mais étant volontaire, il est plus, entre guillemets, on prend plus de risques, si je puis m'exprimer ainsi. C'est peut-être pas le bon mot. Et l'apôtre Paul va exprimer clairement cela dans deux passages sur lesquels nous allons nous arrêter. Le premier passage nous dit ceci. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. C'était dans un cadre où il y avait une collecte proposée pour des frères de Jérusalem qui avaient des difficultés. Mais c'est un principe que Paul peut mettre aussi en avant et qui est intéressant. On va s'y arrêter. Et le deuxième texte, il est dans le deuxième livre de Corinthiens, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc le contexte, je le rappelle, les collectes abondantes en faveur des chrétiens de Jérusalem sont signalées par Paul. Les provinces de Grèce ont été touchées par la souffrance matérielle des frères de Judée et de Jérusalem. Je parle de Grèce pour actualiser, parce que c'était la Macédoine à l'époque. Hein. Et les environs. Donc il y a des frères en Judée et à Jérusalem qui souffraient, et donc les païens fraîchement convertis étaient sollicités pour participer financièrement à une aide, ce qui nous donne de sentir, peut-être de saisir et de comprendre, il faut l'espérer en tout cas, la pensée de Dieu dans ce domaine-là. Je reprends cette parole de Jacques qui dit « Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous, rassasiez-vous » et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il ? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. » Donc on voit qu'il y a une relation, qu'il y a quelque chose qui doit se mettre en place, et en plus, entre foi et œuvre, même si nous savons que la foi, c'est par la foi que nous sommes aussi, que nous accédons à la vie en Christ éternelle. Mais les œuvres ont aussi un rôle. Il est parlé à plusieurs reprises qu'ils nous seront jugés aussi en fonction de nos œuvres, même si la foi est quelque chose qui est aussi en parallèle. Alors, il s'agit de collectes exceptionnelles, c'est vrai, dans le livre des Corinthiens, s'ajoutant sans doute aux offrandes régulières apportées à l'Église, donc l'Église de maison qui se faisait à l'époque. Mais ces textes pauliniens contiennent quand même un enseignement, me semble-t-il, précieux, relatif à la pratique de la libéralité dans la Nouvelle Alliance. Et nous allons nous arrêter et répondre simultanément à ces deux questions dans la suite qui va arriver. Pourquoi et comment Dieu d'abord ? Premièrement, je reprends les textes de Paul, expression par expression. Que chacun de vous, personne, comme au temps d'ailleurs de l'Ancienne Alliance et de l'Israélite, n'est dispensé d'apporter son offrande. Ce n'est pas l'affaire du riche ou des chrétiens particulièrement consacrés. Et ce n'est pas non plus parce qu'un chrétien va donner beaucoup qu'il sera forcément consacré. Mais il est évident que quand même, ça fait partie, ça montre qu'il y a un certain attachement, une certaine consécration. Mais si c'est, comme on l'a dit cet après-midi, pour en mettre plein la vue aux autres, et pour que le trésorier puisse dire à l'Assemblée Générale, ou en tout cas laisser entendre que tel ou tel donne beaucoup, et pour se mettre en avant, ça sert à rien. Enfin, devant Dieu, en tout cas, ça n'a pas de valeur. Et ça ne devrait pas en avoir, d'ailleurs, devant les hommes. Donc, suis-je un enfant ? Suis-je un adolescent ? Suis-je un étudiant ? Suis-je un chômeur ? Suis-je un travailleur ? Je peux prélever, de toute façon, si je veux m'engager pour Dieu, quelque chose pour lui. Quelle que soit notre situation, que chacun de vous, que Dieu connaît d'ailleurs, mieux que personne, je peux honorer le Seigneur par une offrande. Et Dieu ne considère pas tant l'importance de la somme que je lui considère, mais j'ai envie de dire plutôt celle que je garde pour moi. Et donc, peut-être, je le spolie. Jésus le laisse un peu entrevoir et entendre lorsqu'il observe le geste d'une veuve qui vient apporter son offrande. Et vous allez voir que ce texte est très intéressant. Dans le livre de Marc, je lis ce texte au chapitre 12. Il est dit ceci, Jésus, verset 41, s'étant assis vis-à-vis d'un tronc ou d'une boîte, hein, regardez comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Bon, on peut comprendre qu'ils mettent beaucoup s'ils sont riches. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Remarquons dans ce texte que Jésus était tout près du tronc pour voir ce que l'on y mettait. Je ne sais pas si vous imaginez votre pasteur, si le jour il vient, ou un de vos anciens, n'est-ce pas, se mettre, je ne sais pas où est votre boîte d'ailleurs, je sais que vous avez une boîte derrière, voilà, et puis se mettre à côté là, et vous serrez la main à la sortie. Bien, n'est-ce pas? Ça serait peut-être un peu dérangeant, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour qui d'ailleurs, pour l'ancien ou pour les autres. Mais Jésus fait un constat. Celle qui a le moins donné en quantité a finalement donné plus que les autres parce qu'elle a été jusqu'à donner aussi de son nécessaire. Mais là encore, il ne faut pas faire d'un texte un prétexte parce qu'on a quasiment que ce texte qui parle de l'histoire de donner de son nécessaire. Il ne faut pas en faire une théologie, style de celle de la prospérité dont on a parlé cet après-midi, où on pourrait dire, si vous donnez, même si vous n'avez rien pour manger de tout, tout ce qui vous reste, allez-y, faites-le, vous inquiétez pas, Dieu va vous donner encore plus. Non, j'en ferai absolument pas cet enseignement-là. En tout cas, il ne lui restait quasiment rien pour vivre, puisqu'elle donne de son nécessaire. Toujours est-il que là, on a une première leçon, même glissée dans une enveloppe dans l'anonymat, nos offrandes sont connues de Dieu, ce que l'on donne et ce que l'on garde. Pourquoi je donne et pourquoi je garde? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Il sait donc ce que nous faisons à ce sujet et il connaît nos motivations. Et là, personne ne peut le savoir et personne n'a à me juger à ce titre-là. Ce n'est pas sur le peu qui lui restait que Jésus pointe du doigt, mais plutôt sur toute sa condition, qui était en réalité un état de déficit permanent chez cette femme. Cette femme, au premier abord, semble bien honorer Dieu, alors qu'elle ne s'en sort pas. On pourrait dire, quelle foi! Mais vous remarquerez que Jésus ne la loue pas, ni ne la condamne. Il constate. Ce n'est qu'une constatation, et je précise bien là-dessus. On n'a pas à s'apitoyer sur son sort. C'est pas ce que Jésus veut montrer. C'est ce que l'on pourrait penser si on remplace cette histoire dans un contexte qui laisserait entendre autre chose. Et le contexte est intéressant. Je ne l'ai pas donné volontairement parce que je vais vous le donner maintenant. Jésus se tient là, à côté du tronc, parce qu'il se passe quelque chose. Et parce qu'il veut montrer quelque chose à ses disciples. Il appuie quelques recommandations ou quelques avertissements qu'il vient de dire à ses disciples, et ce sont les versets qui précèdent qui nous éclairent. Il leur disait dans son enseignement, Jésus à ses disciples, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue. » Scribes, c'est les religieux de l'époque, hein. À être salué dans les places publiques, à se montrer, n'est-ce pas, religieux, spirituel, qui recherche les premiers sièges dans les synagogues, les premières... Il n'y a pas ici, d'ailleurs, les scribes, ils ne sont pas là. Je ne sais pas où ils sont, mes scribes, c'est ça. donc il n'y a pas de scribe ici, c'est bien, qui dévore les maisons des veuves, qui dévore les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières, ils seront jugés plus sévèrement. Il dévore les maisons des veuves. Tiens, et voilà que tout d'un coup, comme par hasard, une veuve arrive au tronc. Ce tronc qui est récupéré par les scribes et les pharisiens et les sadducéens, c'est cet argent qu'ils gèrent. Bien qu'elle soit louée par Jésus dans le sens où elle s'appauvrit, où elle donne de son nécessaire, Jésus met en avant l'injustice qui est faite à cette pauvre femme qui, en réalité, était plus sous la pression des scribes que motivée par un acte volontaire de foi. Et la pression, les faux docteurs en font encore aujourd'hui pour s'enrichir. Lorsqu'il est dit dans 2 Pierre, je crois que j'en ai parlé cet après-midi, « Il y en a parmi le peuple de faux prophètes, par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Ils mettaient une pression sur les veuves afin qu'elles payent un tribut, si je puis me permettre comme ça, volontaire, par rapport à leur situation. Et quelle que soit leur situation, il fallait payer. Égare à celles qui ne payaient pas. Et voilà, dit Jésus, gardez-vous de cela, ses disciples. Ne faites pas comme eux. Regardez. Ils font plein de choses et entre autres cela, ils imposent. Et ils s'approchent du tronc et voilà que des riches arrivent, mais aussi une veuve. Le Seigneur profite aussi de l'occasion pour dénoncer l'autosuffisance des riches qui, eux, dit-il, mettent de leur superflu. Donc nous avons ici et nous comprenons que le Seigneur ne veut pas que l'on mette de force et que personne ne nous force à quoi que ce soit. Pas de pression. Que chacun de vous soit libre d'agir comme il l'entend. On y reviendra. Deuxième expression qui vient dans notre texte de Paul tout à l'heure, que chacun de vous, le premier jour de la semaine. À une époque... Peut-être que c'est les plus anciens parmi vous l'ont connu, on pouvait être payé à la semaine, voire même à la journée, mais ça c'est beaucoup plus vieux. Alors, je ne vais pas en vieillir plus que d'ordinaire. Aujourd'hui on est payé au mois, en général. Donc on pourrait traduire le premier jour du mois, ou, allons encore plus, soyons plus clairs, le moment où ton salaire est versé. C'est la même chose. Dans l'esprit, c'est pareil. Si nous devions attendre peut-être la fin justement du mois, peut-être pour les plus dépensiers, il ne resterait pas grand-chose. Et on comprend alors que le Dieu d'abord, c'est le Dieu d'abord. C'est le premier jour du mois, c'est-à-dire au moment où. Au moment où tu peux faire quelque chose pour Dieu. L'Ancien Testament parle de prémices. C'est la même chose. Dans le cadre de la dîme, mais c'est les prémices, ce sont les prémices, c'est-à-dire les premiers fruits, les premières choses qui t'arrivent, ça appartient à Dieu. Et le fait de penser d'abord au Seigneur exige et alimente la foi, d'autant plus. Cette manière de faire implique donc une discipline et une rigueur qui s'apprend. Et on peut déplorer l'enseignement à ce titre dans nos églises, partout, déjà à nos enfants. Comment est-ce que nous inculquons à l'enfant que Dieu doit passer d'abord, même dans ce qu'il a, et même s'il a peu. C'est une éducation qui arrive. Alors, je ne jette pas la pierre, parce que moi-même, j'ai eu beaucoup de mal à la faire pour mes propres enfants. Donc, je comprends la difficulté, ce n'est pas évident. Mais ne pas en parler, c'est quand même pas non plus normal. Il faut de temps en temps, en tout cas, essayer de leur faire comprendre cela. Parce qu'une fois qu'on devient adulte, oui, on peut le faire, bien sûr, mais on a d'autant plus facilité de le faire si on a été un peu habitué déjà plus tôt. Premier jour de la semaine. Et Paul donne une troisième expression, ou en tout cas mot, chez lui. C'est pas si anodin que ça. chez lui. Je crois que voilà une attitude de sagesse dont nous ferions bien de mettre ou de remettre à l'honneur. L'offrande est préparée chez nous, à l'avance, lucidement réfléchie, calculée, et surtout, et c'est pour ça que ça me paraît important, hors de toute sollicitation et de toute influence extérieure. Et ça, c'est capital. Imaginez la venue dans votre église, à un mois d'intervalle, de deux missionnaires pareillement consacrés à l'œuvre de Dieu. Le premier, il est pétillant de santé, sa voix est chaleureuse, je ne parle pas de moi, et puissante, il a un PowerPoint, il présente son mission avec beaucoup de panache, il y a des conversions, il est enthousiaste, etc. Et il rencontre donc de son activité, et ainsi, agrémente de par des anecdotes ce qu'il fait. Un mois plus tard, le second missionnaire est un homme épuisé, fragile de santé, c'est pas sa faute, c'est comme ça, à bout de souffle. Lui, il n'a pas beaucoup de conversion dans son carquois à sortir. Le travail est dur, là où il est. Oh, il a quelques feuilles de papier pour distribuer comme sujet de prière, il n'a pas de PowerPoint, parce qu'il n'a pas d'ordi. Sa voix est monocorde, cassée, à peine audible, bref, j'exagère un peu le tableau. Mais la question qu'on peut se poser est la suivante, à notre avis, qui de ces deux hommes, s'il ne collecte ce fait à la sortie de son exposé, empochera la plus belle collecte? Ça paraît bête à dire, hein? C'est même, je ne devrais même pas poser la question, mais franchement, moi j'ai la réponse, hein? J'ai la réponse. Parce que on est souvent confronté au sentiment, à l'émotion, à des dons oratoires. Les faux prophètes dans l'évangile de prospérité sont des gens qui savent bien parler. Ils savent vendre leur affaire. Et en plus, ils tirent des textes de la parole de Dieu, comme on l'a dit cet après-midi, hors contexte. Mais ça, si vous ne connaissez pas la Bible, n'importe qui peut se faire piéger. Et donc, sur le coup de l'émotion, il y a dans ces communautés, c'est scandaleux, c'est dramatique, et je l'accuse, je le dénonce, ils vont faire jusqu'à passer des seaux pour remplir les seaux d'argent. Mais ça marche. Ça marche, puisqu'il y a un effet. Il y a une émotion, il y a un sentiment. Donc je pense qu'il faut pas, il ne faut pas agir selon un état d'âme. Alors on peut se confronter et se trouver à une situation, on vient d'avoir une rencontre, on n'a pas prévu, on nous demande d'aider financièrement, de faire un don. Oui, ça arrive, il n'y a pas de souci. Et on peut donner, mais franchement, on va donner sur l'émotion. De toute façon. Alors, nous qui sommes, pour la plupart, c'est des chrétiens qui connaissons un petit peu le principe, lorsque nous allons, ou si nous allons à une rencontre, peut-être, si le cœur nous en dit et si Dieu nous le met à cœur, chez nous, en se disant, tiens, peut-être y aura-t-il un besoin, eh bien, je prépare une offrande. Et ma foi, s'il y a quelqu'un, s'il y a une demande, voilà ce que Dieu me demande de mettre dans cette offrande. Et si l'exposé est nul, si l'orateur est nul, eh bien, quand bien même, s'il y a une offrande qui est demandée, c'est prévu, je me suis prédisposé et je vais le donner. Il me semble que ce serait quelque chose qui serait plus sage à faire. Parce que, après, c'est le regret. Après passer le sentiment et l'émotionnel, on arrive à la maison et puis on peut se mordre les doigts. C'est dire, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Parce que maintenant, il se passe ci ou il se passe ça. Ça peut arriver. Et moi, il me semble qu'il n'y a rien de plus pénible que de fouiller dans ses poches alors que la bourse vous est tendue au moment de la collecte. Enfin, je ne supporte pas les collectes, personnellement, dans les églises, je le dis très franchement. Je trouve que ça ne va pas dans l'esprit, à mon avis, de l'Écriture. Nous, nous sommes dans une église aussi où il y a un tronc à la sortie, et l'église n'a jamais manqué de rien. C'est un peu l'argument de ce que certaines églises font, de collecte. Ouais, mais si on ne demande pas, les gens ne donnent pas. Ben, s'ils ne donnent pas, c'est qu'il y a un problème ailleurs. Donc, travaillons déjà le problème de fond, et je vous garantis qu'après, ils n'oublieront pas de passer devant le tronc pour donner ce qu'ils doivent donner. Mais ce n'est pas là pour trouver, comme on dit, les boutons de chemise, hein, ou les boutons de culotte. Ça ne sert à rien. Enfin, ça, c'est mon avis, je le partage. Mais voilà, ça n'engage que moi. Chez lui, chez nous. Donc, c'est quelque chose qui se prépare. Avec nos propres arguments, notre propre motivation, notre conjoint, il y a tout plein de circonstances qui font qu'on doit le faire comme ça, me semble-t-il. Autre expression de l'apôtre, enfin, ce n'est pas une expression, c'est un texte, « Dieu aime celui qui donne avec joie ». Et dans l'émotion, je ne donne pas avec joie, forcément. Si, peut-être avec joie sur le coup. Mais si effectivement l'orateur ne m'a pas emballé, et si je donne parce que, ma foi, ben, le voisin, il donne, donc moi, il faut que je donne parce qu'il va me dire que je suis un radin, je ne donne pas avec joie. Là aussi, parce que non seulement on a l'émotion par rapport à ce qui est dit et ce qu'on entend, mais il y a aussi l'émotionnel par rapport à ce qui est autour de nous. Et vous vous souvenez, cet après-midi, le démon y vont. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je ne donne pas? C'est pour ça que je n'aime pas quand les choses sont passées et qu'on impose des choses. On met des personnes dans des situations qui ne sont pas capables de gérer, à mon avis. N'attendons donc pas d'être à l'église et d'attendre tel ou tel besoin pour donner un peu au hasard, pièce ou billet, qui nous tombe sous la main au moment de l'offrande. Dans le numéro du Christianisme aujourd'hui de septembre, il y avait un article d'un certain Christian Willy intitulé « Le chrétien, un donateur comme les autres ?» Point d'interrogation. Le chrétien, un donateur comme les autres, point d'interrogation. Et dans cet article, il fait parler un certain David Alonso, que je ne connais pas, mais qui est quelqu'un qui enseigne pas mal sur ce domaine-là. Et ce David Alonso dit, dans cet article de Christian Willy, regrette que tant de chrétiens, je cite, donnent comme les non-chrétiens. C'est-à-dire que leur motivation relève trop du coup de cœur. Donner, c'est mettre en situation de pauvreté pour réaffirmer sa confiance en Dieu, précise-t-il. Donner, c'est se mettre en situation de pauvreté, entre guillemets, bien sûr, pour réaffirmer sa confiance en Dieu. On n'est pas dans le système de la veuve, tout à l'heure, qui donne de son nécessaire. Et on va le voir dans un moment, ce n'est pas l'esprit que Dieu veut que nous soyons. Et il poursuit dans cet article, il critique la culture, donc David Alonso, critique la culture utilitariste du don en l'Église. Par exemple, la réfection du chauffage, les charges pastorales, etc. C'est utile, certes, mais donc on profite de l'utilité et c'est là qu'on est engagé ou qu'on se sent engagé à donner quelque chose. Donc en nous focalisant, dit-il, trop sur le don et son effet, on en oublie ce qui devait être l'objet de notre adoration par nos dons, justement. Nos dons manifestent l'adoration à Dieu d'abord. Et ils ne manifestent pas d'abord le fait qu'on a besoin de cet argent pour telle ou telle chose. Vous comprenez la différence ? Même si cet argent va être utilisé pour des choses matérielles, mais dans le plan de Dieu. Dieu qui veille, poursuit-il, à ce que nous ne manquions de rien, même surtout quand cela révèle de l'impossible à nos yeux. Donc le don n'est pas imposé. Ils ont, dit Paul, je l'atteste, donné, autre expression, volontairement, c'est-à-dire sans contrainte. Et même au-delà de leurs moyens. Là, on est dans l'esprit de la veuve de tout à l'heure. Mais c'est particulier aussi le contexte. Vous savez, dans l'Ancien Testament, manquer le devoir de la dîme constituait un vol. Et Dieu le dit en Malachie chapitre 3, versets 8, 9 et 10, à son peuple, par le prophète, il dit « Vous me frustrez sur la dîme, apportez donc ce que vous me devez. » Mais la loi de la grâce, ou en tout cas le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance dans la grâce, c'est différent. Parce que nulle part, je dis bien nulle part dans le Nouveau Testament, se trouve l'ordre de consacrer à Dieu la dixième partie de nos revenus. Vous ne le trouverez absolument pas. La seule mention de la dîme, c'est quand il est parlé d'Abraham qui donnait sa dîme. Le chrétien est affranchi de cela par la loi de la Nouvelle Alliance, par la loi de la libéralité que Paul met en avant. Libre de donner la dîme, si tel est son désir et son fonctionnement, entre guillemets, ou libre de ne pas donner de dîme, ou du tout. Dieu veut que l'on donne avec joie. Donc si tu ne donnes pas avec joie, je préfère que tu ne donnes pas. Mais que tu règles ton problème, parce que forcément, si tu ne donnes pas avec joie, donc pas, c'est que tu n'as... Il y a quelque chose qui manque quelque part. Il y a une... Entre nous, il y a quelque chose qui est brouillé. Parce que forcément, si tu reconnais, comme on l'a dit cet après-midi, que tout ce que tu reçois vient de moi, eh bien automatiquement, vu que ça ne t'appartient pas et que je te demande de le gérer, c'est là qu'on devient intendant, plus dans la nouvelle que dans l'ancienne, eh bien tu dois automatiquement me le rendre, puisque c'est moi qui te l'ai prêté. Oui, tu le gères parce qu'il t'appartient, mais tu n'es que gérant. Je peux te l'enlever, on l'a vu cet après-midi. Pierre a bien rappelé à Ananias, on l'a dit cet après-midi, hein, qu'il pouvait légitimement garder pour lui la vente de son champ. Rien ne l'obligeait à le donner et à l'apporter aux disciples. Sauf qu'on l'a vu, ils l'ont fait parce qu'ils voulaient faire comme les autres. Parce qu'ils ne voulaient surtout pas passer pour des moins spirituels que les autres. Mais c'était de l'hypocrisie. C'était pire, c'était du mensonge, puisqu'on l'a vu cet après-midi, ils ont déclaré une somme qui n'était pas exacte. Ils ont gardé le reste pour eux, alors qu'ils ont très bien pu dire, je l'ai dit cet après-midi, hein, on a fait ça, on te donne ça, et on garde le reste pour nous. Voilà, c'est notre choix, point barre. Et Pierre aurait dit, pas de problème. Le chrétien n'est donc pas obligé ni tenu de verser quoi que ce soit dans la caisse du Seigneur. Là, le trésorier, il va m'engueuler hein, tout à l'heure. Hein, car celui-ci ne s'accommode, Dieu, pas... ou plus d'une générosité imposée. Et cela devient presque plus difficile parce que nous sommes rendus alors responsables, plus responsables, à la fois de notre motivation et de notre concrétisation à le manifester par une offrande. C'est à chacun de déterminer et de librement et volontairement ce qu'il veut consacrer à Dieu. Mais, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, le don est lié à ma relation avec Dieu. Si Dieu est le premier dans ma vie, dans le domaine spirituel, n'est-ce pas, dans la relation que j'ai avec lui, il est une évidence que je vais être encouragé à donner à l'œuvre de Dieu. Je vais y venir dans un moment, parce qu'il y a une différence entre donner à l'Église et donner à l'œuvre de Dieu, pour moi. Il semble donc évident que le principe de la dîme imposé par Dieu à son peuple peut être une mesure fiable, je dirais, de la pensée du Seigneur, du souhait et du cœur de Dieu, mais jamais une obligation. En tout cas, je ne le vois pas comme ça dans la Nouvelle Alliance. Il me semble toutefois préférable de ne pas s'imposer strictement la dîme. Pourquoi ? Pour ne pas éprouver le sentiment de légaliser un geste. Parce que nous sommes affranchis de cette loi. Et peut-être aussi pour ne pas se laver les mains un peu à la Pilate. Et là, c'est là qu'il y a aussi autre chose dans la relation avec Dieu, si c'est le cas. De dire, Seigneur, tu veux la dîme, je te donne la dîme. Maintenant, si je peux me permettre, laisse-moi tranquille. Et l'Israélite était certainement en majorité un peu dans ce principe-là. Hein. C'était une loi, on donne la loi. Vous savez, quand vous payez vos impôts, n'est-ce pas ? Des fois, on n'a pas trop envie de payer les impôts. On le fait. Puis on le fait de force, on le fait, point barre. Puis une fois que c'est fait, bon, maintenant, c'est fini. Hein. Je vous ai donné mes impôts pour l'année. Maintenant, stop. Hein. Ouais. Lâchez-moi les baskets. Je n'ose pas poser la question, mais est-ce que vous donnez vos impôts avec joie ? J'en sais rien. C'est normal. Il faut, d'accord. Mais bon, vous voyez le principe. Si c'est pareil avec Dieu, il y a quelque chose qui ne joue pas. Et on le comprend. C'est pas normal. Sachez-le, en même temps, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. C'est aussi un texte qui est de la parole de Dieu, mais attention, il ne faut pas non plus le sortir de son contexte, hein, et faire, comme j'ai dit cet après-midi, l'évangile de prospérité, donne tout et Dieu te donnera encore plus. Ce n'est pas le principe de l'évangile dans son ensemble. S'il y a des textes, des versets qui pointent des choses précises, ça ne veut pas dire que c'est général et qu'il faille en faire une doctrine. C'est pourquoi je crois que si nous éprouvons des difficultés à passer aux actes dans le domaine de la libéralité, eh bien, il ne faut pas d'abord regarder et chercher à savoir ce que font les autres et comment font les autres, ça ne nous regarde pas à la limite, mais c'est d'exprimer simplement à Dieu ce que l'on peut faire avec simplement honnêteté, ce que l'on peut et ce que l'on a envie de faire sur le moment. Jouons franc jeu avec Dieu dans la Nouvelle Alliance. Et puis, pas de regret, que ta main droite ne regarde pas ce que donne ta main gauche, dit Jésus au sermon sur la montagne. C'est-à-dire, ne te mords pas les doigts une fois que tu as mis ton offrande en disant « zut, j'aurais pas dû » ou « 8 jours après, le moteur tombe en panne, ah, si j'avais su, j'aurais pas donné ça à l'église, j'aurais eu ça pour payer ma voiture, réparation, par exemple. » C'est ça le verset. Hein. Une fois que tu as donné, la droite ne doit pas savoir ce que la gauche a donné. C'est oublié, c'est fini, c'est plus à toi, ça appartient plus, c'est terminé. Et je trouve que, même si je ne suis pas contre sur le principe, hein, que le système dans nos associations des reçus fiscaux nous font tomber dans un piège qui va à l'encontre de ce verset. Et moi, j'y suis tombé dedans il y a 2 ans. Ou en recevant ce que j'apporte au Seigneur aussi à son œuvre, je fais des dons. Et puis quand j'ai reçu de l'association ou des associations les reçus fiscaux, et que j'ai fait le total, je me suis surpris en train de me dire « Waouh, mais j'ai donné tant que ça !» Puis je me suis dit « Oh Frédéric, tu réfléchis à quoi là? C'est quoi là ? Tu as donné ?» Alors que les reçus fiscaux me remettent en visuel tout ce que j'ai donné, que ma main droite a donné et que ma gauche est en train de voir. Et ma gauche dit « Ouais, quand même, tu as vu, si tu avais donné moins, tu aurais pu... » Ben non, sur le coup, j'ai donné parce que j'ai donné. C'était ma libéralité, c'était ce que j'avais envie et ce que Dieu m'a mis à cœur de donner. Alors attention, hein, je ne dis pas qu'on comprend le principe des reçus fiscaux, mais il ne faut pas qu'ils nous fassent regretter, voilà, c'est ce que je veux dire, hein. Une fois qu'ils sont là, ils sont là, point. Voilà, on s'insère par la loi, mais ne regrettons pas et voilà, essayons de ne pas tomber dans ce travers-là. Autre expression de l'apôtre Paul, selon ses moyens, on l'a un peu compris. Selon ses moyens, bien sûr, heureusement d'ailleurs. Dans le 2 Corinthiens, Paul précise justement, alors je le lis avec vous, mais il faut comment que je retrouve mon texte, parce que moi je ne l'ai pas noté. Voilà, 2 Corinthiens 8, je lis à partir du verset 12. « La bonne volonté, quand elle existe, est agréable en raison de ce qu'elle peut avoir à sa disposition et non de ce qu'elle n'a pas. Car il s'agit, et là on est dans le contexte où Paul parle de la collecte qui est à préparer pour les amis de Jérusalem qui sont en difficulté, car il s'agit non de vous exposer à la détresse pour soulager les autres, mais de suivre une règle d'égalité. Dans la circonstance présente, votre superflu pourvoira à leurs besoins, afin que leur superflu pourvoie pareillement au vôtre, en sorte qu'il y ait égalité. Selon qu'il est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait ramassé peu n'en manquait pas. » Expression qui vient de l'épisode au désert, où il ramassait la manne le matin pour manger, et chacun prenait ce qu'il devait prendre, et pas plus, pas moins. Qu'est-ce qui peut nous interpeller dans ce texte de Paul ici? Eh bien, d'un côté, je remarque l'éloge de Jésus qui a été faite à l'attitude de la veuve. Éloge, en tout cas, il a montré quelque chose, qui donne de son nécessaire pour vivre. Et en même temps, il a dénoncé l'attitude des riches qui, eux, donnaient de leur superflu dans le tronc, quand Jésus regardait faire. Et voilà que de l'autre côté, l'apôtre Paul nous dit que le superflu des uns pourvoira au manque des autres. Est-ce qu'il y a contradiction entre Jésus, qui condamne le superflu, et Paul, qui dit « Non, votre superflu, etc. » Non, mais nous n'avons pas affaire à la même situation, tout simplement. Les chrétiens de Corinthe sont invités à aider les frères dans le besoin, et il n'est pas question que pour aider les autres, dit Paul, vous vous appauvrissiez à votre tour. devenant ainsi vous-même personne à aider. C'est pas le but. Dans l'épisode de la veuve, c'était des riches qui n'étaient pas là et ne donnaient pas pour un secours, précisément, mais qui avaient certainement beaucoup aussi. Non. Là, il nous dit, assieds-toi et calcule la dépense. Garde pour toi. Sois raisonnable et sage. Établis ton budget. Tiens compte de la part de ce que tu peux donner aux autres et en même temps ce que tu as besoin, toi, de garder pour vivre. Dans la circonstance présente, dit Paul. C'est précis. Votre superflu pourvoira à leurs besoins. Et voyez, afin que leur superflu pourvoie peut-être un jour, parce que tu ne sais pas demain de quoi il est fait, à tes besoins à toi. Il faut qu'il y ait égalité. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, pourrions-nous dire. Voilà donc, me semble-t-il, quelques principes importants rappelés dans la Nouvelle Alliance à travers le texte de l'apôtre Paul sur ces points de la libéralité. Je voudrais poursuivre, avant de terminer, et m'arrêter un petit moment sur un piège principal, à mon avis, à ce Dieu d'abord. Pour moi, c'est la convoitise. On a parlé tout à l'heure, cet après-midi, de notre monde d'aujourd'hui. Un monde matérialiste, un monde où l'argent est roi, et on le voit partout. Allez sur Internet, l'argent est mentionné de toutes parts, publicité en tout va, on vous sollicite à tous les niveaux, on le sent bien. Cupidité, corruption. Alors bon, c'est pas un tableau très idyllique de notre monde, mais je pense que c'est un tableau juste, à mon avis, de la société, qui est une société des temps de la fin. J'ai rappelé cet après-midi le texte de la chute de Babylone, hein, d'Apocalypse 18, qui est une chute mondiale de l'économie, quelque part, enfin, je le crois. Donc l'argent va avoir de plus en plus de puissance, et en même temps, cette société qui va se baser sur Mammon et tout ce qui est autour, un jour va tomber, parce qu'on ne peut adorer l'un ou l'autre, et Dieu va châtier ceux qui adorent Mammon. La convoitise. Et aujourd'hui, dans ce monde moderne, hyper informatisé, technologie de pointe, etc., on est sollicité toujours au mieux. Donc, en fait, on est vite insatisfait de ce que l'on a. On est dans ce processus. Il faut toujours plus. Il faut toujours mieux. En tout cas, c'est ce qu'on veut. On devient des sujets consommateurs pour ce monde d'aujourd'hui, simplement. Des moutons consommateurs. À nous d'être sages pour ne pas nous laisser tondre. On est d'accord. La convoitise est cette soif intarissable de posséder des biens que nous estimons avoir besoin pour être pleinement satisfaits. Dans notre désir charnel d'avoir davantage, bien souvent nous perdons de vue ce que nous possédons déjà. L'histoire du pantalon tout à l'heure. La convoitise est péché, et est le péché d'un monde impie, d'une société qui a tourné le dos à Dieu. Ou vous servez Dieu, ou vous servez maman. Vous me tournez le dos, eh bien vous allez servir maman. Cette société dont j'ai parlé de consommation stimule à cette convoitise. Toute la publicité, souvent mensongère, se pare de ses plus beaux habits pour attirer l'œil, susciter l'envie et emprisonner dans les filets de maman. La convoitise a mis des milliers de personnes dans un surendettement dramatique aujourd'hui dans nos pays riches, industrialisés. On y voit sans peine l'œuvre du diable qui enchaîne une fois de plus à ce Dieu-là. Est-il besoin de rappeler le 10e des 10 commandements donnés à Moïse ? Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne convoiteras pas son serviteur, sa servante, son bœuf, son âne, sa voiture, son vélo, son scooter, son ordi, son iPhone, son MacBook, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et c'est vrai que on louche. On regarde. Ouais, c'est super. Et puis dès qu'on commence à s'y intéresser, on se dit, ah ouais, tiens, voilà. Mais est-ce que j'en ai besoin ? Alors c'est là le problème, hein, l'envie et le besoin. C'est pas facile, hein? L'apôtre Pierre parle de cette convoitise lorsqu'il écrit « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, qui vont vous déstabiliser et qui vont justement, si elle fait la guerre à l'âme, vous détourner du Dieu d'abord. » La situation des chrétiens est clairement définie ici par Pierre par la première expression « étrangers et voyageurs », c'est-à-dire vous êtes des résidents de passage. Et ça, c'est une réalité qu'il ne faut jamais oublier en tant qu'enfant de Dieu. Je l'ai dit cet après-midi, j'ai cité Job, qui disait « Nu, je suis venu sur la terre, et nu, je repartirai de la terre, je n'emporterai rien. » Et je suis, dit Pierre, un étranger et un voyageur. Je campe, en fait. Ah oui, on a de beaux campements, ça, on est d'accord. Hein, ce n'est pas des tentes de toile. Très bien, merci Seigneur pour les campements de luxe que nous avons. Mais ce n'est qu'un campement. Nous n'emporterons rien. C'est dans la foi, dit l'Épître aux Hébreux, qu'ils sont morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués par la foi, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. L'expression revient dans l'Épître aux Hébreux concernant les héros de la foi. S'ils s'étaient détachés de tous leurs biens et qu'ils ont eu des actes de foi, des situations où la foi a été mise en œuvre, c'est parce qu'ils étaient étrangers et voyageurs et qu'ils en étaient conscients et que la priorité était Dieu d'abord. Et pas la maison, pas la voiture, pas le reste. Même s'il faut une maison, une voiture, etc. Il faut voir, hein, bien sûr, les choses et les priorités. Nous devons bien réaliser que sur cette terre, nous sommes donc en transit, nous sommes, oui, en camping, ce qui implique qu'une demeure principale est ailleurs. Et oui, et on l'oublie un peu vite, celle-là. Tout comme les Hébreux dans le désert qui regardaient à la terre promise. Mais pendant 40 ans, ils l'ont entendu. Ben nous, ça fait déjà longtemps qu'on l'attend. Depuis que Jésus est mort, ça fait 2000 ans, minimum. Une terre promise qui nous est donnée, qui nous est offerte. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. D'ailleurs, j'ai été frappé, il n'y a pas si longtemps que cela, par un texte de l'Épître aux Thessaloniciens à propos de cette demeure au ciel, dont nous oublions l'existence, parfois, où Paul dit aux Thessaloniciens, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. » Et il précise qu'est-ce que signifiait la conversion pour les Thessaloniciens. « En abandonnant les idoles. » Et c'est ce que nous devons faire quand nous nous convertissons à Dieu. Nous abandonnons nos idoles. Et l'argent, mammon, le matérialisme dans notre société peut en être une. Pour servir le Dieu vivant et vrai, poursuit-il. Donc, je m'engage à honorer Dieu, à le servir dans tous les domaines de ma vie, y compris avec ce que Dieu me donne. Et pour atteindre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts et qui revient. Troisième condition ou conséquence plutôt de la conversion. Je jette les idoles, je sers Dieu et je l'attends. Je pense qu'on s'arrête aux deux premiers. Si nous étions plus dans l'attente, je pense que nous aurions plus de facilité à combattre la convoitise, me semble-t-il. Peut-être je me trompe. Et si le Seigneur nous rappelle cette situation d'étranger, c'est justement pour orienter nos centres d'intérêt au bon endroit. Et pour nous aider à nous détacher de ce monde. Donc, quelles sont mes ambitions en tant que chrétien? Sont-elles motivées par l'esprit de ce monde dont nous avons vu qu'il se matérialise essentiellement par la puissance de mammon? Et là, j'ai un piège. Et si c'est le cas, alors je serai très vulnérable à la convoitise. Vous étiez mort, dit ce texte d'Éphésiens, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, le prince de la puissance de l'air. Vous savez que c'est un texte très particulier, ça, le prince de la puissance de l'air. J'ai du mal à le comprendre, je l'admets, mais dernièrement j'ai été interpellé par ce verset qui m'est revenu à l'esprit. Lorsque je vois la puissance de la technologie aujourd'hui, et de la communication par l'air. La Wi-Fi. L'air. La radio, les ondes, tout ça, tout ça, tout ça. Je m'interpelle, je m'interroge. Peut-être que je me trompe, hein. Le prince de la puissance de l'air. Voilà. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair. Donc, le terme est employé ici par Pierre, par Paul. Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, bien sûr, par la grâce de Dieu, nous savons passer de l'autre côté par la foi. Lorsque les Hébreux sont rentrés en terre promise, Dieu leur avait ordonné d'en chasser tous les habitants. Et Josué devait le faire. Pourquoi ? Il disait, garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Mais qu'est-ce qui était un piège pour eux ? Eh bien, c'est de convoiter la manière dont ils vivaient, c'est-à-dire leur Dieu en particulier. Donc, tu les chasses, tu les enlèves du pays. Alors, on peut être choqué par ce qu'a demandé Dieu, mais c'est ainsi. Et en fait, lorsque vous lisez le livre des juges, qui suit Josué, vous vous rendez compte qu'en fait, ils n'ont pas obéi à l'ordre de Dieu. Ils ont fait des compromis. La plupart des tribus, d'ailleurs. Et ces compromissions leur sont revenues comme un boomerang, où ils ont fini par tomber dans l'idolâtrie de ces peuples-là. Et Dieu a fini par se mettre en colère, et on connaît la suite, avec des déportations successives, etc. Donc ils n'ont pas obéi à cet ordre-là. Alors Dieu ne demande pas de chasser tous ceux qui sont autour de nous, bien évidemment. Mais dans le domaine spirituel, oui. Éloigne-toi. Chasse tout ce qui est contre moi. Tout ce que je te révèle être contre moi et que la parole de Dieu va te montrer. Parce que c'est elle qui va te le dire et qui va te révéler cela. Ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Mets-les de côté. Jésus disait, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc, on n'est pas dit de les chasser, mais on est au milieu, mais on est préservé, parce que nous-mêmes, spirituellement, si Christ est en première place, Dieu d'abord, alors forcément, nous aurons ces choses qui vont s'éloigner. Attention donc au piège du conformisme qui tente à décrédibiliser la convoitise. Quelqu'un a écrit que le conformisme, c'est un psychologue, Roger Mukieli, et l'attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, règles, normes, modèles, qui représentent la mentalité collective ou le système des valeurs du groupe auquel on a adhéré et à les faire sien. Le conformisme est tentant car il évite les remises en question, l'isolement, les problèmes, les persécutions. On veut finalement être un peu comme les autres parce que peut-être qu'on n'a pas envie ou peur de dire ce que l'on est réellement. Et dans notre société où la religion commence à devenir, dans le sens large, hein, toutes les religions, commencent à devenir maintenant un peu mis au pinacle pour des raisons X ou Y, eh bien, on a peut-être peur de dire que l'on est même chrétien aujourd'hui. Et peut-être que ça va s'accentuer, je ne sais pas. Et donc se conformer aux autres, être comme les autres pour passer inaperçu, etc. Mais Dieu nous demande d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Ça, c'est pas le conformisme. Hein. Et c'est pour ça que les chrétiens ont été persécutés. Parce que la lumière, au milieu des ténèbres, on voit qu'eux. Et les chrétiens, ils dérangent. On doit déranger dans le bon sens du terme, bien évidemment. Mais la persécution, elle est là, et elle est là à cause de ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut chercher à aller vers la persécution, mais il faut déjà chercher à être sel et lumière du monde. Et dans le domaine de notre sujet, eh bien, si je m'éloigne de la convoitise, si je m'éloigne de Mammon, forcément, ma lumière va briller d'une autre façon. Elle va déranger, certainement, mais elle dérangera pour la gloire de Dieu. Et ça, après, ça, c'est plus ma responsabilité, c'est Dieu qui gérera la suite. Alors, avant de terminer, je voudrais donner cette parole d'un certain Agur dans les Proverbes, que je trouve vraiment formidable. Lorsqu'il dit, il prie Dieu, et il dit, éloigne de moi la fausseté et le mensonge, ne me donne ni pauvreté ni richesse, de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Quelle sagesse! On apprend ici que l'appât du gain alimenté par la convoitise engendre souvent à son tour la fausseté et le mensonge, et ça c'est normal, j'ai envie de dire. Et une arme efficace contre la convoitise est d'impérativement veiller donc à ses priorités, espérant qu'elles soient centrées sur la crainte de Dieu, et surtout s'y tenir coûte que coûte. Alors je vais conclure et je voudrais citer ce texte tiré de l'épître de Livre des Rois. Que votre cœur soit tout à l'Éternel. Et en parallèle, un autre texte tiré du Livre des Nombres, au chapitre 18 et au verset 24. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi je dis à leur égard, ils n'auront pas de possession au milieu des enfants d'Israël. Les Lévites, qui étaient une tribu de Lévi, mis à part pour Dieu, pour servir Dieu. Aucun héritage leur était échu dans le partage du territoire. Mais leur héritage, eh bien, c'était tout ce que les autres tribus allaient leur apporter, à savoir les dîmes. Mais je voudrais vous faire remarquer une chose ici. C'est pas, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit par rapport à dîmes et libéralité. J'espère que je me suis bien expliqué. Mais vous noterez dans ce passage que les enfants d'Israël apportaient leurs dîmes à l'Éternel. Alors qu'ils savaient très bien qu'elles étaient destinées aux Lévites, comme part d'héritage. C'est donc au Seigneur qu'il faut d'abord porter, pas à l'Église, pas à une association, pas à une œuvre. En tant que chrétien, si on soutient l'œuvre de Dieu dans son ensemble, c'est à Dieu. Et on le fait à travers l'Église, une œuvre, etc. Oui. Mais ce n'est qu'un passage. Le but, la priorité, ou en tout cas notre objectif, c'est au Seigneur. Malheureusement, lorsqu'on parle d'argent dans l'Église, il est lié et attribué à telle ou telle œuvre, qui vient en second, c'est vrai, mais il ne faut pas la mettre en premier, ou telle tâche, ce qui fausse la notion de don à l'Éternel. Je me persuaderai donc que mon offrande est destinée au Seigneur lui-même, en fonction de ce que j'ai et de ce qu'il met sur le cœur. Cette notion me gardera de toute arrière-pensée, surtout de toute mesquinerie. Ma libéralité ne sera pas en fonction des dépenses de l'Église ou du nombre d'appels financiers, mais plutôt selon les bénédictions que Dieu m'a accordées. Et je les rends. Donner à Dieu, c'est apprendre à le craindre lui, et pas l'Église, et pas les hommes. C'est malheureusement loin d'être le cas si je donne à l'Église. Offrir à Dieu est un acte de consécration. Donner de l'argent à ses vieux parents sans leur apporter la moindre affection est une vilenie. Donner de l'argent à Dieu, peu ou beaucoup, sans lui donner sa vie est une moquerie. Et Dieu ne s'y trompera pas. Alors, comme cet après-midi, j'aimerais laisser trois questions. La première question est la suivante. Lorsque nous remettons notre offrande, avons-nous réellement le sentiment de l'apporter à Dieu? Est-ce que vous avez déjà pensez à ça. En donnant au Seigneur, sommes-nous conscients de sa grandeur et de ses largesses à notre égard? Et enfin, suis-je vraiment décidé à honorer Dieu, à honorer de mes biens le Seigneur? Si je ne l'ai pas fait jusqu'à présent, par exemple, ou voilà, si je l'ai fait d'une autre façon, ou selon ce que l'Esprit peut-être nous aura dit ce soir. Voilà, trois questions qui vont vous permettre et nous permettre de poursuivre un petit peu la réflexion personnellement, en tout cas, et devant Dieu, et de nous laisser interpeller une fois de plus par le Saint-Esprit. Voilà, vous comprenez que ce sujet, ben, il est vaste, bien sûr, mais j'ai essayé de centraliser sur quelques points. J'espère que vous n'êtes pas frustrés, en tout cas, et qu'on a pu ouvrir quelques pistes, et que vous saurez quoi faire devant le Seigneur. Voilà, je vais prier, puis peut-être, comme tout à l'heure, si vous voulez, on peut avoir un moment de partage. Seigneur, notre Dieu, et encore une fois, nous sommes reconnaissants de prendre ce temps devant toi, face à ces textes particuliers de l'Évangile, mais particuliers parce qu'ils touchent à un domaine particulier et peut-être sensible aussi pour nous. Seigneur, merci de nous donner la liberté de pouvoir le faire, parce que toi-même, tu le fais en toute liberté. Je te prie pour que nous comprenions ce que tu attends de chacun, que chacun comprenne ce qu'il attend de toi ou ce que tu attends de lui. Que nous soyons attentifs, Seigneur, à ta voix, à ton esprit. Pardonne-nous, Seigneur, si nous n'avons pas fait ce que tu souhaitais. Et en même temps, Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier pour tous les biens que tu nous as accordés, pour l'abondance dans laquelle nous sommes, dans le pays dans lequel nous vivons. Certes, il y a des personnes qui souffrent dans notre pays, qui n'ont peu, pas grand-chose. Là aussi, Seigneur, tu veux nous parler, tu veux préparer notre cœur. En tout cas, nous voulons nous laisser interpeller d'abord par toi. Pardonne-nous, Seigneur, comme nous l'avons dit, de nous laisser interpeller de trop ou trop vite par des sentiments. Mais Seigneur, nous avons des sentiments, mais qu'ils soient maîtrisés par ton esprit. Seigneur, merci encore de nous rappeler tout cela. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen.